Comment vous avez entendu parler du CFPE ?
C'est quand j'ai envisagé de faire une thèse sur les mouvements écologistes, j'ai tout bêtement fait une recherche sur Internet pour voir où pouvaient être les fonds disponibles pour faire ma recherche, et j'ai eu la surprise de découvrir qu'au CHT, il y avait des fonds de militants antinucléaires, qui avaient notamment lutté contre la centrale du Pèlerin dans les années 70. Et c'est comme ça que je suis venu au CHT, et que j'ai découvert l'importance des fonds qui pouvaient s'y trouver.
Bonjour, Alexis Vrignon, doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Nantes, prépare une thèse sur l'émergence des mouvements écologistes de la fin des années 60 au milieu des années 80. C'est donc tout naturellement qu'il est allé consulter les archives du CHT, interview réalisée à l'occasion des 30 ans du Centre d'Histoire du Travail.
J'avais surtout expérience des archives diplomatiques ou des archives départementales classiques, et c'est vrai que l'accueil au CHT tranche avec tout ça. C'est beaucoup plus informel et souvent beaucoup plus agréable en fait. Je me souviens, une des premières questions que j'ai posées, c'est est-ce qu'il y a des levées ? Est-ce qu'il faut commander les documents à l'avance et tout ça ? Patsy, l'animateur, m'a répondu « Oh ben non, tu me demandes, et puis bon, bien sûr, si tu me demandes 25 cartons, je te demande de l'aide et on les prend ensemble. » Donc c'est vrai que c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus informel, c'est un cadre de travail qui est finalement très agréable.
C'est un outil parmi d'autres outils ?
Dans mon cas particulier, c'est vraiment un outil important, puisque les archives de l'écologie en France sont très dispersées et souvent peu archivées dans les archives départementales ou nationales. Donc c'est vraiment un outil important, parce que c'est là que je peux trouver vraiment des fonds de militants, ce qui est très difficile à trouver par ailleurs. Mais comme dans toute recherche, il faut croiser les sources. C'est acheté, là on a surtout des sources militantes qu'il faut croiser avec sources officielles, administratives, ainsi de suite. Mais c'est vrai que là c'est vraiment quelque chose d'important dans une recherche sur l'écologie, mais même sur tout ce qui est syndicalisme et militantisme depuis les années 30, grosso modo.
Qu'y a-t-il dans les boîtes qui vous intéressent ?
Il y a deux choses très importantes qu'on peut trouver au CHT, c'est d'une part beaucoup de revues militantes. Des fois des choses qui ne sont pas facilement trouvables, même à la BNF, parce que c'était des revues à petit tirage ou parfois des revues artisanales. Donc bref, des choses vraiment intéressantes à ce niveau-là. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est tous les papiers personnels des militants, les comptes rendus de réunion, les journaux qui sont annotés, bref, tout ce qui permet de voir un peu comment le militantisme se faisait au quotidien. Ou presque, et pas seulement le résultat du militantisme qui est la revue officielle ou le manifeste paru dans la presse. C'est vraiment le militantisme en train de se faire qu'il est intéressant de pouvoir voir au CHT. Toute la documentation qu'il pouvait avoir, tout le travail, bref, qu'il y avait quand on était militant. Dans les revues que je peux trouver, il y a beaucoup de revues de l'écologie libertaire, par exemple, qui sont assez difficilement trouvables par ailleurs, parce que c'était vraiment des revues à très petit tirage, dispersées, bref, des choses qu'on ne peut pas facilement trouver. L'intérêt au CHT, c'est que ça me permet de travailler sur une situation qui est très locale, qui était la lutte contre la centrale du Pèlerin dans les années 70. Donc lutte qui a été importante, qui s'est poursuivi d'ailleurs dans les années 80 et 90 avec la lutte contre le carnet. Grâce au CHT, j'ai finalement accès au point de vue de beaucoup d'acteurs de cette lutte. Non seulement les militants antinucléaires, avec les fonds Annick Bruno, Marie-Françoise Gonin, là, qui étaient vraiment des militants antinucléaires écologistes, mais également les fonds syndicaux, qui étaient plus ou moins associés à la lutte. Et donc ça me permet vraiment de croiser le point de vue des acteurs, d'avoir le point de vue des militants antinucléaires qui sollicitaient l'aide des syndicats, la réaction des syndicats, souvent assez embarrassée. Donc ça me permet vraiment de reconstituer tout un écosystème militant et politique local. Et ça, c'est un cas qui est finalement assez unique en France, puisque je n'ai pas d'autres centres d'archives qui me permettent de faire ça, vraiment de croiser ces différentes sources.
Pour vous, le matériau de base, c'est l'écrit ?
Essentiellement, c'est vrai qu'en France, la formation des historiens incite beaucoup à aller voir du côté des archives papier. C'est vraiment notre matériau de base. Et culturellement parlant, pourrait-on dire, c'est vrai que je suis plutôt porté à aller voir du côté d'archives. Néanmoins, j'ai la chance de travailler sur les années 70, et donc beaucoup d'acteurs de cette époque sont encore vivants. Et donc j'essaye un maximum d'en rencontrer. Et d'ailleurs, grâce aux CHT qui ont gardé des contacts avec les personnes qui avaient donné leurs archives, j'ai pu rencontrer des acteurs de cette époque. Et donc croiser, là encore, source papier et source orale. Et les deux, finalement, s'alimentent, puisque le source papier donne un aperçu du travail militant, mais ce sont toujours au niveau des traces. Je ne trouverai jamais tous les comptes rendus de réunion des associations écolo, Ils en tenaient très peu d'ailleurs des comptes rendus. Mais j'en ai quelques traces. Donc ça suscite d'autres questions que je pourrais croiser avec les entretiens et vice-versa. Les entretiens sont aussi une parole reconstituée qu'il faut croiser avec les sources écrites pour vraiment essayer d'arriver à une appréciation juste de ce qui a pu se passer, notamment à Hugues du Pèlerin qui était aussi très pleine d'affect finalement, encore maintenant.
On peut appliquer une méthodologie particulière dans le champ de l'histoire contemporaine ?
En tout cas, dans ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, oui. Donc par histoire du temps présent, on entend l'histoire qui se déroule grosso modo à partir des années 60-70, qui ne se fait pas exclusivement à partir d'archives administratives ou de revues, comme ça peut se faire pour l'histoire classique. D'autant plus que se pose un problème pour les années 70 et postérieures, c'est que l'accès aux documentations administratives est parfois restreint. Les archives DRG, par exemple, me sont quasiment totalement fermées. Donc il faut bien que je fasse avec, donc il faut bien que je trouve des moyens ou bien de poser d'autres questions à mes sources, ou bien de répondre à ces questions à partir d'autres sources. Et c'est pour ça que ça m'incite d'autant plus à aller voir du côté des sources militantes, pour essayer finalement de pallier le manque de sources dites administratives, notamment celles DRG. Donc c'est effectivement, ça implique de réfléchir au croisement de différents types de sources, et notamment sources orales et sources écrites. Ce qui est un exercice assez intéressant finalement, parce que recueillir des témoignages oraux, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose aussi de difficile et de difficilement exploitable. Il y a 30 ans qui sont passés, dans le domaine de la lutte antinucléaire comme dans d'autres, il y a des résonances encore actuelles qui influent sur le témoignage des acteurs. Et donc il faut vraiment faire un aller-retour permanent entre sources écrites et ces témoignages.
Ça aurait pu être ma première question. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce thème ?
Je me suis souvent posé la question, et c'est vrai qu'on me l'a souvent posé. À l'origine, j'avais fait mémoire de recherche sur un sujet totalement différent, c'était les missionnaires dans l'Empire ottoman, au XIXe siècle. Donc absolument rien à voir. Et quand s'est posé la question de faire une thèse, qui implique quand même un travail sur plusieurs années, assez long, assez exigeant, j'ai eu envie de faire quelque chose qui ait plus de résonance avec l'actualité. C'était au moment où on parlait beaucoup du GIEC et des problèmes de climat. Et étant historien, je me suis demandé, tiens, comment cette nébuleuse s'est mise en place ? Et j'ai découvert qu'il y avait finalement assez peu de choses qui avaient été faites. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, ben, allons-y, pourquoi ne pas étudier les mouvements écologistes dans ces années 70 ? C'est vrai que les documents des militants antinucléaires sont généralement assez engagés, mais en même temps, en les croisant avec des documents, par exemple, de la CFDT, qui était également engagée dans la lutte antinucléaire, mais d'une autre manière, on peut justement voir quels arguments, par exemple, étaient outranciers. Ça pouvait arriver. Ou alors, quels conflits personnels pouvaient aussi surgir dans ces luttes. Et donc, c'est vraiment par le croisement des documents, avec également la presse régionale, Ouest-France, ça permet vraiment de se rendre compte de la culture militante qui influençait les arguments qui pouvaient être donnés. Par exemple, dans les années 70, les militants antinucléaires étaient beaucoup en train de critiquer la société nucléaire en disant que ça allait être une société policière, que le nucléaire était tellement dangereux qu'il faudrait contrôler tout le monde pour éviter le moindre accident. Ça a pu donner lieu à des excès, justement, dans ce registre « nous allons vers la dictature ». Et donc voilà ce qu'on peut trouver dans les sources militantes. En les croisant avec des sources autres, on peut voir notamment que la résonance de ces arguments était relativement faible finalement. Généralement, au CHT, les documents sont bien triés. Donc quand j'ouvre une boîte, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Donc c'est déjà une chance assez importante, notamment pour tout ce qui est archives militantes, qui des fois sont très mal classées ou pas du tout. Après, le problème des archives du temps présent, c'est qu'il y a une masse de documents qui est absolument faramineuse. On était à l'heure de la photocopieuse, chacun pouvait taper son bout de texte et le reproduire, donc il y a une somme de documents qui est absolument gigantesque, et c'est là qu'est le défi finalement. On sait ce qu'il y a dans les boîtes, mais après, on a le fonds de la CFDT, par exemple, c'est plus de 300 boîtes. Donc il faut ensuite avoir une méthodologie assez stricte pour savoir qu'est-ce que je veux chercher avant d'ouvrir les boîtes. Sinon, on se noie dans la masse des documents. et on tombe dans une sorte de répétition qui est sans grande perspective. Donc là, c'est un des gros défis, finalement, de l'histoire du temps présent.
C'est encore important de triturer les documents d'origine ?
Oui, quand même. C'est vrai que la numérisation des documents, c'est quand même très intéressant pour avoir accès à des documents lointains, sans savoir se déplacer. Mais déjà, rien que le contact avec le papier, c'est ce qui fait aussi le charme de la recherche en histoire. Donc ça, enfin, personnellement, j'y suis assez attaché. En plus, ça permet vraiment de se rendre compte, par exemple, de la qualité du papier, de la qualité de la reproduction. Et ça donne aussi des indications sur comment le document a été confectionné, donc dans quel groupe militant on pouvait évoluer. Donc ça, ce sont des choses quand même assez importantes. Et d'autant plus que, pour l'histoire du temps présent, la masse des documents est trop importante pour qu'on puisse envisager de tout numériser. Mais par exemple, il y a des entreprises de numérisation de certaines revues. Ça se fait parfois, ce qui, là, par contre, est très intéressant, puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui ne prête pas à une analyse du papier ou ce genre de choses. Et donc là, pour le coup, ce sont des choses qui seraient à encourager.
C'est peut-être aussi dévaloriser le travail du chercheur si on primache tout.
Oui et non, de toute façon, il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre l'archiviste et le chercheur pour justement déterminer comment trier un fonds, rien que ça, et ensuite déterminer quel type de document serait, par exemple, digne d'être numérisé. Et là, c'est pour ça que le CHT a son intérêt, c'est que c'est une organisation qui est très ouverte. Et le dialogue avec les archivistes se fait facilement. Et ça, c'est vraiment un intérêt énorme pour le chercheur, puisque ça interroge sa propre pratique et son propre rapport aux documents. On a parfois tendance à un peu à naturaliser l'inventaire, à se dire « bon, ben voilà, c'est classé comme ça », alors que finalement, il y a une réflexion derrière. Et c'est bien de l'avoir en tête, et c'est bien de dialoguer avec l'archiviste pour justement faire évoluer les pratiques de chacun. C'est un problème assez récurrent qu'on se pose, je pense, quand on fait un doctorat en histoire. C'est bien gentil ce qu'on fait, mais à quoi ça sert? Et donc là, c'est intéressant de se retrouver dans une structure qui se pose régulièrement la question de la valorisation de ces fonds pour un public plus large que les chercheurs qui peuvent naviguer dans ces fonds. Et donc de les valoriser pour un public plus large, ce qui implique là effectivement un gros travail de tri, de choix du document, de mise en contexte du document, bref, de choses que les chercheurs n'ont pas forcément l'habitude de faire facilement, puisqu'on s'adresse souvent à des pairs pour qui c'est assez automatique. Et donc là aussi, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'assez intéressant, rien qu'à observer, et donc ça interroge sa propre pratique de chercheur. Et ça donne envie de participer justement à ces entreprises de valorisation plus large des documents qui peuvent se trouver.
Je n'ai pas m'immiscer dans votre vie privée, mais vous faites quand même des kilomètres entre Alençon et Nantes.
J'ai 2 heures et quelques de train.
Et vous venez à Nantes régulièrement ?
J'essaye de venir à Nantes une fois par semaine, et j'essaye de prendre des photos au maximum pour pouvoir les travailler ensuite chez moi, puisque c'est la seule solution qui se pose véritablement à moi. Ce qui implique finalement de travailler chez soi et un petit peu seul et isolé. Mais bon, ce sont les contraintes du chercheur et des mutations dans l'éducation nationale.
Donc c'est une forme de numérisation ?
C'est une forme de numérisation, effectivement, offerte grâce aux appareils photo numériques, et un peu obligatoire, mais qui n'est pas une fin en soi, parce que je me rends compte à chaque fois, mince, j'ai pas numérisé cette page parce que je croyais que c'était pas important, alors que finalement ça l'était. Donc il faut constamment que je fasse un retour aux archives. Je ne peux pas me contenter de venir une fois tous les 3 mois et de numériser à tout va. Ce serait pas, déjà, ça me prendrait énormément de temps parce qu'il faudrait prendre plein de photos et ce serait pas forcément très intéressant finalement.
Quelques mots sur votre recherche.
Je m'intéresse au mouvement écologiste avant la fondation du Parti Vert. Donc, autrement dit, comment est née la préoccupation vis-à-vis de l'environnement dans les groupes militants et comment ils se sont servis de cette préoccupation pour l'environnement pour essayer de mettre en place une nouvelle culture politique. Et ça dans des circonstances très particulières, qui étaient les années 70, donc de fortes conflictualités sociales, mais en même temps dans lesquelles on était très réticents à l'égard de tout ce qui était institution. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils ont mis en place toute une réflexion autour de la société civile. Le terme apparaît beaucoup à cette époque, et comment vraiment ils ont essayé d'animer des luttes plus larges que la lutte environnementale, et donc d'essayer de changer la société à partir de ces préoccupations environnementales. Et finalement, comment ces aspirations ont progressivement décru à la fin des années 70, pour entrer dans une phase beaucoup plus institutionnelle dans les années 80, avec la fondation des Verts et l'implication des écologistes dans les politiques publiques de l'environnement.
Et le choix du site du Pèlerin, est-ce qu'il y a aussi Plogoff qui aurait pu être emblématique ?
Et justement, Plogoff est peut-être trop emblématique. C'est une lutte qui a été très étudiée à l'époque et encore maintenant dans les thèses. Et finalement, Plogoff est plus une exception qu'autre chose, puisque c'est une des seules luttes antinucléaires qui conduit immédiatement à l'abandon du projet. Alors que le Pèlerin est beaucoup moins connu. Et pourtant, elle aussi, c'est une lutte antinucléaire qui a réussi, puisqu'au final, il n'y a pas eu de centrale construite en Basse-Loire. Donc il est intéressant de comparer les deux pour voir comment la mémoire de l'événement est totalement différente et comment les ressorts du succès de la lutte ont été également différents dans les deux cas. Au Pèlerin, il y a beaucoup plus eu une mobilisation variée des acteurs, CFDT, FDSEA, autour de la Basse-Loire, alors qu'au Plogoff, c'est plus un événement aussi médiatique. Donc c'est vrai que la comparaison des deux est intéressante. Ma thèse s'arrête dans les années 85, 84, 85. Donc je vois le passage du Pèlerin vers le Carnet. Mais j'étudie pas ensuite la lutte pour le Carnet dans les années 90, par exemple. Dès les années 70, pour le site du Pèlerin, des arguments proprement environnementaux étaient mobilisés, parce que c'était censé être une zone verte entre les agglomérations de Saint-Nazaire et Nantes. Et donc c'était un argument qui était assez répandu pour les années 70 pour le Pèlerin, de dire non, ça doit être une zone préservée, puisque ça doit être une zone de respiration entre les grandes agglomérations industrielles qui étaient Nantes et Saint-Nazaire. Donc c'est vrai que pour le Carnet, ensuite, il y a eu des arguments qui étaient un petit peu similaires, qui étaient mobilisés.
Alexis Vrignon, doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Nantes, est l'invité du magazine réalisé à l'occasion des 30 ans du Centre d'Histoire du Travail.
Mais il y a eu plein d'autres arguments aussi sur la pollution des eaux, pollution aux éléments radioactifs qui allaient ensuite impacter toute la baie de Bourgneuf et ce genre de choses.
Et la proximité de Nantes ?
Oui. Il y avait un professeur au Collège de France qui avait déclaré à l'époque que le Pèlerin était le plus mauvais site du monde, justement parce que c'était le plus proche d'une agglomération importante pour une centrale qui était prévue pour être très très puissante. Et donc effectivement, s'il y a eu un accident nucléaire, Nantes se trouvait à 20 km de là. Ce qui était inédit, ce qui ne se faisait pas par exemple dans les centrales américaines, qui étaient beaucoup plus loin des grandes agglomérations.
Merci à Alexis Vrignon pour sa libre participation à cette émission, réalisée à l'occasion des 30 ans du Centre d'Histoire du Travail.
J'en suis à 2 ans de recherche, ce qui pour une thèse histoire est à peu près, se situe à peu près au milieu du guet. Là, je commence à avoir une idée à peu près nette de tout ce qu'il me reste à accomplir, qui est énorme, évidemment, comme toute thèse. Et donc, oui, il me reste environ 1 an et demi de recherche pure, vraiment au contact des archives, et suivra 1 an environ de rédaction avant de livrer le produit fini, qui sera la thèse, d'ici 2 ans et demi.
Et qu'est-ce qui se dégage au bout de 2 ans ?
Ce qui m'a surpris, finalement, quand j'ai abordé les mouvements écologistes dans les années 70, c'est leur rapport aux politiques, essentiellement. C'est-à-dire que ces mouvements pouvaient participer aux élections, parfois très régulièrement, successivement aux différentes élections, sans pour autant s'estimer être un parti politique, et en critiquant même parfois les hommes politiques. Donc il y avait un rapport aux politiques qu'on pourrait qualifier de très ambigu, mais qui est très intéressant. C'est plutôt l'idée de promouvoir une sorte de super-citoyen qui serait intéressé, impliqué dans la vie de la cité sous tous ses aspects, et donc qui participerait aux élections, mais qui serait également un militant syndical, un militant associatif. Donc bref, dans ces années 70, et notamment dans l'écologie politique, il y a vraiment toute une réflexion sur le rôle de la société civile dans la démocratie, aux côtés de la démocratie représentative, dont les écologistes se plaisaient à souligner les défauts, les errements, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un point vraiment important pour les écologistes à cette époque. Et il est intéressant de voir comment ces aspirations ont été reprises et altérées dans les années 80. Et que finalement, il y a une sorte de normalisation dans les années 80, du fait notamment de la crise économique. À partir de 83, avec le tournant de la rigueur, c'est un bon point de repère. Et donc finalement, toutes ces aspirations vont s'évanouir au profit d'une remise de soi aux hommes politiques, qu'on va considérer comme les porteurs de solutions de cette crise économique qui touchait la France.